nous pouvons être découragés. Et ici, bien, c'est dans ce cas que l'apôtre Paul va certainement élever, inspiré par le Saint-Esprit, une des plus belles prières pour ces chrétiens d'Éphèse. On va le voir, hein, qui eux aussi étaient découragés. On en verra quelques causes ce matin. Mais en tout cas, il y a là aussi sur le fond un enseignement pour nous ce matin. Alors on va relire un petit peu le contexte dans Éphésiens 3, verset 13. Voilà ce qu'il est dit. « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. On a ce lien dans ce dernier verset, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Avec notre texte de la semaine dernière, hein, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et on avait émis cette pensée que même si parfois, bien, on a l'impression d'être complètement brisé, bien, lorsque le Seigneur voit un vase brisé, il va le briser encore plus, non pas pour nous humilier, mais nous réduire comme en poussière en poudre, reprendre toute cette poussière, là, de ce vase brisé, le mêler à nouveau à de la pâte, et puis reformer un vase qui sera plus résistant, plus fort que le premier. Et ce matin, on peut être parfois découragé dans nos vies chrétiennes, parce qu'on a l'impression comme un vase qui est brisé, qui est devenu inutile. Pourtant, le Seigneur, le divin potier, ne va pas laisser abandonner ce vase qui a été façonné, qui est brisé peut-être, mais avec lequel il va reformer un nouveau vase qui sera plus résistant que le premier. C'est dans cette perspective, hein, que ce matin, il peut nous arriver d'être découragé, mais Paul ici, bien, va nous apporter quelques éclaircissements pour être renouvelés, être fortifiés. Alors j'ai trois grandes pensées ce matin pour nous. Le découragement, vous connaissez, point d'interrogation, voilà. Deuxième pensée, on parlera de décourager le découragement. Oui, nous pouvons décourager le découragement. Et puis la troisième pensée, à travers ce dernier verset, c'est en cas d'urgence. Hein, si vraiment, il y a un moment donné dans nos vies où ça tombe dessus, il y a quand même aussi pour nous bien une belle réalité. Alors Paul écrit cette lettre d'abord dans un moment de captivité. Il est à Rome, vous vous souvenez, pendant ces 2 ans, on est sous l'empereur Néron. Il va être libéré au bout de 2 années, c'est dans les années 60 à 62, pas 1960, hein, donc c'était juste 60-62. Et donc il va être libéré, et puis il va y avoir ce fameux incendie de Rome, hein, en 64, Néron, là aussi, va accuser les chrétiens, on connaît l'histoire. Il sera à nouveau en captivité, l'apôtre Paul, et puis il mourra en martyr vers 67. En tout cas, ici, c'est un formidable encouragement pour tous les chrétiens, dans toutes les générations, et qui font face, bien sûr, au découragement. L'apôtre Paul, emprisonné, en tout cas en semi-liberté, est loin d'être découragé, est loin d'être frustré, est loin d'être résigné, mais il veut se servir de ce temps qu'il a pour encourager, pour exhorter, eh bien, tous ses frères et sœurs, eh bien, qui souffrent, qui sont affectés, c'est normal, par sa détention. Alors, première pensée pour nous, c'est une question, mais je pense que j'ai la réponse. Le découragement, est-ce que vous connaissez? Hein, le découragement, vous connaissez. Tout à l'heure, on a chanté, fais de moi un instrument. Si j'étais un instrument, quel instrument je serais? Mais si je vous pose la question, et si le découragement était un animal, quel animal serait pour vous le découragement? Alors j'essaie de réfléchir un petit peu en amont, hein, peut-être vous avez des propositions instantanées. Je me suis dit, ça peut être parfois comme un lion, un rugissant, effrayant, qui va nous effrayer. Ça peut être aussi comme un guépard, un animal qui est tapis et puis qui guette. Voilà, le moment où il va nous sauter dessus. Ça peut être aussi comme un ours qui va essayer de nous étouffer. Quand on est découragé, bien, on n'a plus de perspective. Alors, je sais pas, vous êtes peut-être un autre animal, là, où vous allez y réfléchir tout à l'heure pendant le repas. Mais, oui, le découragement peut être comme un de ces animaux qu'on vient de citer. Comment se manifeste-t-il chez vous? On a tous, là aussi, bien, des différentes réactions face au découragement, mais on connaît. On connaît, bien sûr, ce découragement. Comment se manifeste-t-il? Quelles sont quelques raisons du découragement? Eh bien, ici, Paul dit ceci, c'est que les chrétiens d'Éphèse sont découragés par rapport aux souffrances endurées par Paul. La souffrance, vous le savez, je le sais, est une source de découragement. Qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit psychologique, lorsqu'elle perdure, lorsqu'elle est intense, lorsqu'apparemment rien ne se passe, eh bien, la souffrance est une source de découragement. Quand rien ni personne ne peut nous aider, eh bien la souffrance va nous conduire dans le découragement. On se retrouve sans force, vidé, fatigué, sans ressources, à bout. Et tout devient compliqué, même les gestes parfois les plus simples, eh bien même peut-être parfois les projets qu'on avait nourris, eh bien deviennent irréalisables. Pourquoi ? Non pas parce que le projet l'est, mais parce que on pense finalement, et le découragement nous fait penser que ce sera irréalisable. Et la souffrance, bien sûr, est une source de découragement. C'est ce fameux « je n'y arriverai ». Vous connaissez la suite ? Jamais. Ben oui, je n'y arriverai jamais. C'est pas possible. J'ai essayé ça, etc. Je n'y arriverai jamais. Et ça reste dans la tête. Et alors, eh bien, on est découragement, bien sûr. On est découragé, la souffrance. D'autres chrétiens d'Éphèse ont peur aussi pour l'apôtre Paul, et par ricochet, ont peur pour eux-mêmes. Dans ces années, c'est le début des grandes persécutions. Les chrétiens commencent à être persécutés à cause de leur foi, et finalement, eh bien, ils entendent ici et là des chrétiens qui sont humiliés, qui sont persécutés, on leur prive de biens, etc. Et c'est une deuxième cause aussi, bien sûr. Une peur, une cause puissante, la peur, la crainte. La peur, alors, qu'elle soit rationnelle ou irrationnelle, fondée ou pas, éphémère ou installée, spontanée ou graduelle, la peur nous affecte tous à un moment donné ou à un autre. Et alors, eh bien, elle est source aussi de découragement. Vous rappelez Israël devant Goliath. Israël devant Goliath. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, il y avait une loi en Israël concernant l'armée avant de partir au combat. On posait deux questions aux soldats. Y a-t-il des jeunes mariés? Y a-t-il des jeunes mariés de moins d'un an? Alors, s'il y en avait, hop, ils retournaient dans leur foyer. C'était une exemption de service militaire. Il fallait, bien sûr, que les jeunes hommes s'occupent de leur foyer. Et la deuxième question qu'on posait, elle est étonnante. Y a-t-il un soldat ici qui a peur? Comment ça? Ben non, quand même, on fait partie de l'armée d'Israël, je vais quand même pas dire que j'ai peur devant les autres. Et on posait la question, et ce n'était pas une honte à l'époque de confesser sa peur, et si un soldat avait peur, on lui demandait de se retirer du combat. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que quelqu'un qui est découragé, qui a peur, bien va décourager également ceux qui sont autour. Et on préférait poser la question, voir sortir des rangs peut-être une dizaine, vingtaine de soldats avant le combat, que de prendre le risque qu'ils restent dans le combat et puis qu'ils contaminent tous les autres à travers leur peur. Et alors, eh bien, on sait très bien que là, Israël devant Goliath, Israël est pétrifié. Et Israël avait peur de ce géant qui défiait personnellement. Et puis, ce matin, c'est peut-être une des raisons. On a peur. Alors, on a peur, il y a toutes sortes de peurs, bien sûr. On a peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire sur moi? Qu'est-ce qu'on dit sur moi? On a peur, peut-être, c'est la rentrée, je ne sais pas, de prendre des responsabilités supplémentaires. Ça peut être aussi effrayant. l'inconnu, on ne sait pas comment ça va se passer, les nouveaux collègues, etc., le nouveau patron ou les nouveaux ouvriers, un cadre nouveau, on a peur. Et la peur peut être une source aussi de découragement, avec ce fameux « je n'y arriverai pas ». Avant même qu'on ait pris en place notre nouveau poste, on se dit « je n'y arriverai pas », c'est très subtil. Et puis il y a une dernière peut-être source, il y en aurait d'autres, hein, de découragement, c'est l'échec. Hein, on s'est investi, on s'est préparé, on a tout mis en place pour réussir, on avait même une bonne impression, et puis les résultats arrivent, ou le jour de l'examen arrive, ou la proposition est là, ou le projet est là, et puis rien ne marche. J'ai regardé de temps en temps un petit peu l'athlétisme, hein, c'est le championnat du monde, vous savez, et il y a une course qui m'a marqué, alors je sais plus si c'était une course de fond avec les femmes, là, et donc il y avait une Hollandaise, qui était bien sûr favorite, et puis elle était en queue de peloton, comme ça, elle a laissé un petit peu les tours, et puis au dernier tour, elle a commencé à accélérer, et puis elle s'est portée donc à la deuxième place, elle était pratiquement en train de, je crois, à 30 mètres de la ligne d'arrivée, et là, à 30 mètres, alors qu'elle voyait quelqu'un la dépasser, elle a essayé de faire un mouvement supplémentaire, elle a été déséquilibrée, et puis elle est tombée à 30 mètres de l'arrivée. Elle s'était préparée pendant des années et des années, et la peur, là aussi, un échec cuisant, bien sûr. Alors, elle rebondira, bien entendu, mais il y a des échecs parfois qui nous découragent, et on se dit encore, eh bien, je n'y arriverai jamais. C'est peut-être un échec professionnel, un échec familial, un échec personnel, un échec affectif, enfin, je veux dire, on peut, un échec spirituel, et on se dit, on se bloque, je n'y arriverai jamais. Alors les conséquences du découragement, hein, je vous les cite quand même, alors, bon, on les connaît, on les vit, hein, peut-être que ce matin, eh bien, quelqu'un aussi les vit, on se sent incapable, on est le moins que rien, hein, bien sûr, tout nous paraît insurmontable, on peut être irritable ou alors taciturne. On peut se replier sur nous-mêmes, on n'a plus envie, on n'a plus de confiance, on est résigné, etc. On manque de perspective, on a même quelques déséquilibres, alors dans le sommeil, dans l'alimentation, enfin, tout ça on connaît puisqu'on le vit. Alors, il y a une bonne nouvelle ce matin, parce que Paul va encourager ces chrétiens d'Éphèse et nous encourager à décourager le découragement. Décourager le découragement, il nous montre à travers cette prière inspirée, Paul, eh bien, qu'il y a des moyens que Dieu va mettre en place, que Dieu met en place pour nous aider, eh bien, à décourager ce découragement et à le vaincre. Alors, et Paul, ce que j'aime bien ici, ce n'est pas quelques conseils simplement ponctuels ou des attitudes qu'on fait tous d'ailleurs et qui sont bons en eux-mêmes, par eux-mêmes. Inviter quelqu'un à un repas quand on va décourager, peut-être lui donner un coup de main, prendre en charge, etc., le soulager, et ça on le fait, et c'est une bonne chose, et on doit continuer à le faire. Mais ici, l'apôtre Paul part sur le fond, et il va aller beaucoup plus loin, et il va nous appeler et nous conduire dans quelques éléments. Que dit-il? Comment prie-t-il? Il y a deux éléments que Paul cite dans sa prière. Il dit être puissamment fortifié. Et la deuxième chose, être enraciné et fondé dans l'amour. Être puissamment fortifié, être enraciné et fondé dans l'amour. Être puissamment fortifié, hein, c'est ce que Paul dit par le Saint-Esprit. Le découragement, vous savez, il s'attaque à nos défenses spirituelles, à nos défenses émotionnelles, à nos défenses morales. Pour les saper, pour y faire des brèches, pour nous déstabiliser, pour ébranler nos fondations, nos convictions, notre foi. Ça, c'est vraiment le rôle du découragement. On parle tout à l'heure de Goliath. Hein, le principe de Goliath est celui-ci. Il va s'avancer, et puis il va dire à tout le peuple, eh bien, donnez-moi un homme, je jette un défi, et aujourd'hui, eh bien, je vais me battre avec lui. Celui qui sera vainqueur, eh bien, sera vainqueur de la grande bataille. C'est pas une fois que Goliath l'a dit, hein. Vous savez combien de fois et pendant combien de temps? Pendant 40 jours, le matin et le soir. C'est ce qu'on appelle la méthode du disque rayé. Vous connaissez cette méthode, hein? Quand nos enfants défont quelque chose dans la tête. Le matin, ils y vont. Le lendemain et le surlendemain. Et puis, papa, maman, jusqu'à ce que, et Goliath, eh bien, va, Et à chaque fois que Goliath, même avant qu'il s'avance, Israël est déjà pétrifié. Avant même que Goliath ouvre la bouche, eh bien, Israël était pétrifié parce que, eh bien, il s'attaquait aux fondements, aux valeurs, et il ébranlait ainsi un peu plus chaque jour par ses paroles. On a donc besoin d'être puissamment fortifié, d'être équipé, d'être encouragé, d'être renouvelé, d'être préparé. Et dans cette perspective, hein, Paul cite un peu plus loin, bien, cette belle réalité, vous relirez Éphésiens 6, verset 10, il dit, mais c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, dans le jour du découragement. Ne soyons pas simplement des gens réactifs sur le moment, mais laissons-nous puissamment fortifier. Et ce matin, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous remplir. Le Saint-Esprit va nous fortifier. Le Saint-Esprit va nous renouveler, va nous rappeler les paroles de Jésus. Et chaque jour, et parfois dans les moments difficiles, particuliers, eh bien, il va nous rappeler, il va nous moindre. Il y a quand même l'exemple de Jésus qui est frappant. Dans Luc 4, verset 1er, Jésus rempli du Saint-Esprit. Et puis Luc 4, 14, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a une dimension intérieure, il y a une dimension extérieure. Il y a une dimension là aussi de foi qui est dans la personne de Jésus. Et voilà pourquoi Jésus pourra dire ensuite, bien l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et puis on connaît bien sûr la suite, mais ce matin, il y a une action spirituelle que le Seigneur veut faire pour nous aider quotidiennement à décourager le découragement, être puissamment fortifié. C'est une promesse de sa part. On ne peut pas nous-mêmes nous fortifier par nous-mêmes, être puissamment fortifié. Et l'action spirituelle ici, pour que Christ habite dans votre cœur par la foi. Moi, je me suis arrêté quelques minutes devant cette parole, pour que Christ habite dans mon cœur par la foi. Qu'est-ce que ça évoque pour nous ce matin? Que Christ habite dans mon cœur. Qu'est-ce que ça évoque pour moi? Une colocation. À part égale. Hein, Seigneur, écoute, on partage des choses ensemble, mais j'ai ma liberté et tu as la tienne. C'est pas ça. Une location épisodique, une location de vacances. De temps en temps, Seigneur, quand j'ai un besoin, hop, tu viens habiter et puis après tu peux repartir. Hein, la location de vacances est finie. Non, j'ai regardé... Ce que le mot « habiter » veut dire sur un dictionnaire, ça veut dire « demeurer chez quelqu'un »,« demeurer dans un lieu »,« demeurer dans un lieu ». Alors, ça veut dire que finalement, avoir sa demeure, habiter, ça veut dire avoir sa demeure. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu nous dit « Christ habite dans vos cœurs », ça veut dire que Jésus a sa demeure dans nos cœurs. Ça veut dire qu'il y a eu un changement de propriétaire. On n'est plus le propriétaire. Jésus devient le propriétaire. Et ce matin, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais qui est une belle réalité, parce que quand je me rends compte que c'est Jésus le propriétaire, que Jésus l'hôte essentiel, alors face au découragement, lorsqu'il frappe à la porte, je lui dis, écoute, j'ai quelqu'un à te faire voir. Si le découragement ce matin frappe à notre porte, eh bien, ouvrons la porte et puis laissons Jésus s'en occuper. C'est lui qui habite dans nos cœurs. Ce n'est pas moi, ce n'est plus moi, c'est Jésus qui règne dans ma vie. Et face au découragement ce matin, bien, le Saint-Esprit nous fortifie puissamment afin que Christ habite dans mon cœur. Celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est contre nous. Amen. Christ habite dans mon cœur. Il a fait sa demeure dans ma vie. Et puis la deuxième pensée, c'est être enraciné et puis fondé dans l'amour. Alors, c'est ces deux termes qui sont très très proches, mais pour bien appuyer cette belle réalité, enraciner, bien, ça nous fait passer bien sûr aux plantes, la nature, le principe de vie, et ici, bien, un bon enracinement va contribuer à ce que la plante s'épanouisse avec les tempêtes, avec les coups de chaleur. Quand la plante a de bonnes racines, bien profondes, bien stables, eh bien, même si les conditions extérieures sont un peu pénibles, la plante va résister. Et puis fondé dans l'amour, ça nous parle bien sûr plutôt de bâtiment, de construction. Avant d'établir une belle maison, il faut des fondations. Alors bien sûr que les fondations sont invisibles, on ne les voit pas, mais elles sont essentielles. Construisez une maison sans fondation, vous allez voir, ça va pas tenir longtemps. Et ce matin, bien là aussi, il y a un but, l'objectif, c'est que de comprendre et de connaître cet amour. Comprendre et connaître, vivre l'amour de Christ. Notre sœur tout à l'heure en témoignait. Et chacun d'entre nous, nous témoignons son amour. Quand quelqu'un nous dit, sans que nous parlions, il y a quelque chose en toi que je n'arrive pas à comprendre, à saisir, tu es différent des autres, c'est l'amour de Christ que nous connaissons, que nous comprenons, pas simplement intellectuellement, mais que nous pouvons saisir, comprendre et connaître l'amour de Jésus. Réalisons ce matin un peu plus qu'hier, la portée éternelle de l'amour de Jésus, sa dimension extraordinaire. Paul emploie un vocabulaire d'architecte ici, il parle de longueur, de hauteur, de largeur, de etc., etc., de profondeur. Ça nous dépasse l'immensité de son amour. Et puis connaître, c'est vivre l'expression de son amour en nous ce matin. Un amour, et l'amour qui fera dire à Jésus, au paralytique, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Prends courage, mon frère, ma sœur, ce matin. Tes péchés te sont pardonnés. Cet amour qui fera dire à Jésus, une femme qui est atteinte du perte de sang depuis 12 ans, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Peut-être que ce matin vous êtes venu fatigué, souffrant, découragé. Prends courage, ma fille, mon fils. Ta foi t'a sauvée, ta foi t'a guérie. Prends courage. Quelle parole de la part de Jésus. Et puis à ses disciples, qui se posent beaucoup de questions comme nous, il leur dira, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, au travail, c'est pas toujours évident. Oui, dans le quartier, c'est pas évident. Oui, la société, c'est pas évident. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Alors, ce matin, prenons également courage. Amen. Dieu met en nous des moyens pour décourager le découragement, d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit, et puis d'être fondé et enraciné dans son amour. Amen. Alors en cas d'urgence, et il y a des moments où on n'a pas été préparé, pourtant le Seigneur nous a fortifié, pourtant on est fondé, on est enraciné, puis à un moment donné, il suffit des fois d'un courrier, d'un coup de téléphone, de pas grand-chose pour que, tac, ce lion nous saisisse, le lion du découragement ou l'ours, et là, nous pouvons être dessalis. En cas d'urgence. Moi, je suis impressionné par cette proclamation de l'apôtre Paul à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Il y a ici une perspective, une vision qui nous est ouverte, qui est extraordinaire. On m'a payé pour mes 60 ans, là, toute la famille s'est cotisée pour me payer un petit tour en ULM, en ultra léger motorisé. Donc j'ai pu faire ça cette semaine, parce que les conditions climatiques étaient très très favorables. Et alors c'est vrai que quand on est sur cette terre, c'était dans un champ de maïs, bien sûr, qui avait été fauché, on décollait comme ça. On a une vision de notre environnement, on voit notre épouse, il y a une fille qui était là, on voit, etc. Et puis voilà, on est là, et c'est la vision qu'on nous donne. Mais quand on commence à s'élever, quand on commence à aller jusqu'à 800 mètres, le record en ULM c'est 8123 mètres, c'est ce que le monsieur m'a dit. Celui qui a fait ça, il faisait moins 41 degrés, il est redescendu quand même assez vite. Mais nous on est monté qu'à 800 mètres. Il faisait 22 degrés, j'ai survolé le Haut-Kenisbourg à 800 mètres, c'est tout petit comme ça. C'est rien le Haut-Kenisbourg, c'est tout petit, etc. Et puis on voit vraiment des tout petits camions, c'est comme des petits jouets, etc. On a une autre vision, une vision élargie. Là, le temps est un peu couvert, autrement on pourrait voir les Alpes, etc. Avec une vision à 300, c'est extraordinaire. Et là, spirituellement, je crois que Paul nous ouvre aussi les yeux de cette même manière. Laissons-nous élever un peu plus chaque jour dans la présence du Seigneur. Avec cette parole, face au découragement, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Moi, je vois pas de limite, moi. Je vois pas de limite. Seigneur, ce matin, je suis découragé. Oui, je suis découragé. La peur, l'échec, la souffrance ou autre, je suis découragé. J'ai essayé, j'ai tenté. Et puis, je suis arrivé à cette conclusion, je n'y arriverai jamais. Et bien, ce matin, dans cette réalité que je vis, qui est certainement une réalité, eh bien, je veux aussi proclamer, je veux confesser, je veux me rappeler, je veux, comme on l'a dit tout à l'heure, célébrer ton nom, parce que face à ce découragement qui est peut-être brutal ou soudain, eh bien, Seigneur, je veux proclamer que par la puissance qui agit en moi, parce que tu habites en moi, eh bien, tu es et tu fais infiniment plus que tout ce que je peux penser, demander, imaginer ou prier. Dieu est au-delà, bien au-delà, infiniment grand. Amen. Alors que ce matin, nous puissions nous rappeler cette belle parole, et s'il y a un verset peut-être à méditer, à se repasser dans son cœur, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on pourrait avoir un temps de prière avant de partager encore un autre moment autour de la Sainte Cène, mais que nous puissions ce matin bien bénir le Seigneur, l'élever, lui faire part de notre découragement, notre situation qui nous préoccupe, mais de confesser également que à lui soit la gloire. Il peut faire infiniment, beaucoup plus que tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Amen.